Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle émission, nous allons nous pencher sur les élections de mi-mandat aux États-Unis qui ont lieu le 6 novembre 2018. Quatre jeunes chercheurs nous parleront de la mobilisation des femmes et des minorités, du financement de campagne, de l'avenir du Parti républicain et des défis qui attendent le Parti démocrate.
Une émission réalisée par Charlotte Bézamamante et Estelle Ménard.
Tamara Boussac est doctorante en civilisation américaine à l'Université de la Sorbonne et à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour Tamara.
Bonjour.
Quelles sont les idées reçues sur le profil type des électeurs républicains pour ces élections de mi-mandat ?
Quand on pense à la base de Donald Trump, depuis 2016, on a beaucoup entendu parler de ce qu'on appelle la classe ouvrière blanche dans les États en désindustrialisation, dans les États du Midwest et du Nord-Est des États-Unis, et également aussi de l'électorat blanc des États du Sud et du Sud-Ouest, qui sont en général frontaliers avec le Mexique. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte depuis 2 ans, et là, ce qu'on voit aussi dans ces élections, c'est que c'est une vision qui est un petit peu réductrice, en fait, des électeurs de Donald Trump. Notamment, on s'est rendu compte après 2016 que l'un des facteurs qui avait expliqué l'élection de Donald Trump, c'est tout simplement que l'ensemble des républicains avaient voté pour lui, donc avec l'idée un peu d'un alignement en fait des républicains un peu classique sur la candidature de Donald Trump dès lors qu'il avait été investi par le parti républicain. Et là, notamment, ce qu'on a remarqué pour ces élections, c'est que les circonscriptions à enjeu que les démocrates notamment avaient envie d'arracher aux républicains en 2018, ça avait été au contraire les banlieues résidentielles d'États comme New York, le New Jersey, de Californie, donc au contraire une population plutôt de classe moyenne, plutôt aisée, souvent très éduquée. Et du coup, on voit que sur ce genre d'électorat qui a été très important pour les démocrates cette année, on n'est pas du tout sur le schéma type qu'on avait eu tendance à dégager en 2016.
Les électeurs de Trump en 2016 ont-ils majoritairement voté pour les républicains pendant les élections de mi-mandat de 2018 ?
On aurait tort d'imaginer un public américain qui serait vraiment passionné par ce qui se passe pendant les élections. Malgré tout l'engouement médiatique qu'il y a pour les élections, c'est pas quelque chose qui intéresse forcément énormément les Américains, en fait. Donc la vraie question à poser, c'est aussi, est-ce que ceux qui avaient voté pour Trump en 2016 sont tout simplement allés voter en 2018? Et justement, les démocrates avaient un peu fait le pari que ce ne serait pas le cas. Et une grande partie du message, en fait, de campagne des démocrates cette année, c'était justement de dire aux gens d'aller voter, justement parce qu'ils comptait un peu sur une surmobilisation de l'électorat démocrate par rapport à l'électorat de Donald Trump, avec l'idée que c'est pas parce qu'un électeur a été forcément très enthousiasmé en 2016 par Donald Trump qu'il va aller se déplacer pour voter pour un autre candidat républicain en 2018 dès lors que le nom de Trump ne figure plus sur le bulletin. C'est pour ça notamment que pendant les dernières semaines de l'élection, on a vu Donald Trump qui est beaucoup allé faire campagne sur le terrain et notamment dans des circonscriptions et dans des États qu'il avait déjà gagné en 2016, un peu dans l'idée de repersonnaliser l'élection, de remobiliser les gens qui avaient voté pour lui il y a 2 ans. Et dans un sens, c'est quelque chose qui a plutôt marché dans certains États. C'était le cas du Missouri, par exemple, du Dakota du Nord, de l'Indiana.
On a vu des élus du Parti républicain se trouver en profond désaccord avec Donald Trump depuis son élection en 2016. Pourtant, il n'y a eu ni démission massive, ni confrontation directe. Alors, comment l'expliquer ?
Alors c'est vrai que, notamment pendant la campagne, pendant les primaires, en 2015-2016, on a eu un peu le mythe du jamais Trump, du never Trump, qui disait « le Parti républicain, c'est pas le parti de Trump, donc toute alternative à Trump est bonne à prendre ». Mais c'est un peu un mythe qu'il faut relativiser là aussi, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où Trump a été investi par les républicains et encore plus après son élection, il y a une trumpisation du Parti républicain qui est évidente, il y a un alignement au niveau des votes du Congrès, ce qui fait, comme vous le dites, on n'a pas d'effet de dissidence ou de rébellion de la part des élus au Congrès par rapport à Trump. Et ça s'explique de plusieurs manières. Déjà parce qu'on remarque que depuis l'élection en fait, de Donald Trump, la cote de popularité de Trump ne chute pas. Elle stagne, elle est assez stable à un niveau de 42%, tout simplement parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même une grande partie des choses qui a été mise en œuvre par l'administration Trump depuis 2 ans, sont en fait des choses très classiques pour les républicains. C'est le cas par exemple de la réforme fiscale. Donc on a un parti républicain qui est sorti renforcé un peu par la candidature de Donald Trump, et ça, les élus savent qu'ils le doivent quand même à quelque chose.
Roman Vinadia est doctorant en géopolitique à l'Université Paris 8.
Bonjour Roman Vinadia.
Bonjour.
Quelles sont les leçons à tirer de cette élection pour le Parti républicain et le Parti démocrate en termes de coalition électorale ?
Le Parti républicain se trouve, à mon sens, face à une carte électorale relativement précaire sur le long terme. Le Parti démocrate a réussi au niveau de la Chambre des représentants à convertir de nombreux comtés républicains dans les banlieues aisées des grands centres urbains. Les banlieues sont historiquement les bastions électoraux du Parti républicain. Ils représentent le berceau historique du mouvement conservateur, qui est au cœur du Parti républicain depuis les 50 dernières années. La perte de vitesse du Parti républicain dans ces territoires démographiquement dynamiques représente un enjeu considérable pour un parti qui cherche à maximiser son nombre de voix. Ce d'autant plus que l'autre groupe d'électeurs sur lequel le parti peut compter est localisé dans les territoires ruraux et très peu peuplés. Si cette perte de vitesse dans les banlieues s'accentue, le Parti républicain aura de plus en plus de mal à rassembler le nombre de voix suffisant pour rester compétitif. Par contraste, le Parti démocrate peut déjà compter sur les centres-villes, généralement concentrant des populations issues des minorités, des centres universitaires et tous les territoires concentrant des populations à haut niveau d'éducation. Ce sont tous des territoires, certes de petite superficie, mais avec des réservoirs de voix considérables. La conversion des banlieues commencée en 2016 et approfondie en 2018 par le Parti démocrate devrait donc être un signe inquiétant pour le Parti républicain. En somme, le Parti républicain semble compter de plus en plus sur une population en déclin. Le Parti démocrate, quant à lui, semble attirer les populations en pleine croissance.
On parle beaucoup en France du rôle de l'argent dans la politique américaine. Quelles sont les sources de financement des candidats? Quelles sont les différences notables entre le Parti républicain et le Parti démocrate?
Alors d'abord, l'élection de 2018 est l'élection mi-mandat la plus chère de l'histoire. Au total, environ 5,2 milliards de dollars auront été dépensés. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, il existe deux types de dépenses répondant à des règles très spécifiques. D'une part, les dépenses faites par les candidats ou les partis politiques, et d'autre part, ce qu'on appelle les dépenses indépendantes. Ces dernières sont le plus souvent celles effectuées par ces fameux super PAC. Ce sont des organisations dont l'unique but est de participer au processus électoral à travers la diffusion de publicité. Dans l'ensemble, le Parti démocrate peut compter sur ce que l'on appelle les groupes idéologiques portant sur les questions de régulation de port d'armes, de soutien à l'avortement, de causes pro-environnementales et les syndicats. Par contraste, le Parti républicain compte plutôt sur les groupes idéologiques anti-avortement, pro-port d'armes, les regroupements industriels et les industries notamment minières, agricoles et du secteur de l'énergie pétrolière et gazière. Contrairement à l'image que l'on s'en fait parfois, les donations du secteur économique sont relativement équilibrées entre les deux partis. Ceci s'explique en partie par le fait que ces entités effectuent des donations aux candidats afin d'acheter de l'influence, contrairement aux groupes idéologiques qui, eux, donnent à des candidats représentant directement leurs valeurs. Les sommes dépensées dans les campagnes électorales augmentent à chaque cycle, de manière quasiment exponentielle. Néanmoins, du fait qu'elles s'équilibrent entre les deux partis, elles n'ont pas d'impact démesuré sur les chances d'un parti ou d'un autre. En somme, il y a juste plus d'argent avec les mêmes conséquences électorales et les deux partis peuvent largement compter sur des réseaux de financement solides et organisés.
Donald Trump a éprouvé de réelles difficultés à avoir approuvé par le Sénat les nominations des membres de son cabinet et du judiciaire. Comment l'augmentation de la majorité républicaine au Sénat peut-elle changer la donne?
Depuis son investiture, Trump a eu la possibilité de nommer deux juges conservateurs à la Cour suprême. Ces juges étant nommés à vie, il n'est pas exagéré de dire que Trump est parvenu à réorienter dans un sens plus conservateur la plus haute cour fédérale américaine pour toute une génération. En parallèle de la Cour suprême, Trump a aussi été en mesure de nominer de très nombreux juges aux différentes cours fédérales. Ici aussi, la face du judiciaire américain s'en est trouvée profondément modifiée. Ceci représente un but de très longue date pour le Parti républicain et plus particulièrement pour le mouvement conservateur. En effet, depuis la fameuse décision Roe v. Wade de 73 qui légalise l'avortement, le mouvement conservateur s'est attelé à une stratégie de reconquête du judiciaire. Cette stratégie s'est développée à travers la création d'organisations telles que la Federalist Society, dont le but était de former et pousser la nomination de juges conservateurs. Les deux premières années de la présidence Trump représentent donc l'apogée de leur succès. Par exemple, les deux nominés à la Cour suprême, qui ont été confirmés, appartiennent à la Federalist Society. Aujourd'hui, grâce à l'augmentation de sa majorité, Trump aura une marge de manœuvre beaucoup plus large dans la sélection des candidats, non seulement pour le ministère de la Justice, mais aussi dans d'autres départements tels la Défense ou l'Intérieur. Le Parti républicain, au lendemain de son élection en 2016, avait quelque peu forcé la main à Trump dans le choix de ses ministres. Il est aujourd'hui beaucoup plus large de les choisir dans ses rangs.
Ibrahim Bechrouri est doctorant à l'Université Paris 8 et il nous parle depuis New York. Bonjour Ibrahim Bechrouri.
Bonjour.
On parle beaucoup des musulmans américains comme la cible de discours racistes, mais leur comportement électoral en tant que citoyen est peu évoqué. Quel est le positionnement politique des communautés musulmanes ?
Le comportement des communautés musulmanes en termes de vote a beaucoup évolué au cours des dernières années. L'idée, c'est que avant le 11 septembre 2001, les musulmans votaient principalement côté républicain, mais qu'avec le 11 septembre et le développement des idées islamophobes, ils ont commencé à se tourner de plus en plus du côté du Parti démocrate. Aujourd'hui, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même toujours 13% de musulmans qui votent pour Donald Trump. Les communautés musulmanes ne sont pas monolithiques. Elles ne sont pas monolithiques non plus au niveau de leur vote et de leur stratégie électorale vis-à-vis du, du Parti démocrate, avec des personnes qui vont voter plus à gauche du Parti démocrate, des personnes qui ont par exemple refusé de voter pour Hillary Clinton en 2016, et des personnes qui ont voté beaucoup plus à droite, qui étaient très contents de la candidature d'Hillary Clinton. Et c'est quelque chose qu'il faut regarder dans le détail, comment les différentes ethnies dans la communauté musulmane votent, comment les jeunes musulmans votent, comment les musulmans d'une autre génération votent, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, par exemple, dans mon travail, c'est le fait que les Noirs américains musulmans, parce qu'ils ont une histoire plus longue aux États-Unis et qui est caractérisée par la lutte pour les droits civils, ils votent bien plus à gauche du Parti démocrate et il y a un soutien bien plus important de leur part à Bernie Sanders, par exemple, et à New York, localement, à des candidats encore plus progressistes, peut-être, comme Alexandra Ocasio-Cortez.
Comment interprétez-vous le succès des deux candidats démocrates musulmanes au Congrès ?
Alors bien sûr, le plus simple, c'est de lier ce succès à l'islamophobie qui a été produite par Trump et au fait que les musulmans ont donc été construits au cours des dernières années comme faisant partie du camp du progrès. Et du coup, des candidats démocrates avec un agenda très progressiste sur certaines questions ont été élus parce que, quelque part, elles ont cet aspect cool, cet aspect hashtag résistance qui vend très bien aujourd'hui aux États-Unis. Mais il faut aussi inscrire ces victoires dans une histoire, une construction d'un vote musulman, mais aussi d'élus musulmans. Ilhan Omar, par exemple, elle remplace Keith Ellison au Congrès. Keith Ellison était lui-même musulman et c'était en fait le premier élu musulman au Congrès avec son collègue André Carson. C'était des Noirs américains musulmans qui ont des noms qui ne laissent pas entrevoir leur islam et qui n'ont jamais caché leur appartenance à la religion musulmane et qui ont par exemple prêté allégeance lors de leur investiture, non pas sur la Bible, mais sur un Coran. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces candidats très progressistes musulmans et leur candidature a décomplexé aussi une certaine islamophobie. Il y a un laboratoire de l'université d'Harvard qui a mené une étude sur le sujet et qui a conclu qu'il y avait une stratégie orchestrée par des groupes d'extrême droite pour attaquer ces candidates musulmanes et d'autres candidats musulmans au niveau national et au niveau local et qui ont visé à les démoniser en les liant au mouvement des frères musulmans, en parlant de cinquième colonne, d'infiltration du gouvernement américain et de véritable djihad politique. Du coup, il y a cette chose qu'ont déclenché peut-être ces candidatures musulmanes et du coup cette augmentation de l'islamophobie ou cette justification de certaines idées islamophobes qui les a accompagnées.
Quel a été selon vous l'impact des discours des républicains sur le comportement électoral des minorités en 2018 et est-ce qu'il a changé par rapport à 2016?
C'est difficile à dire, seulement 48 heures après les élections. Maintenant, ce qui est dit, c'est que le comportement électoral des minorités a changé sensiblement. Pas forcément parce que les minorités ont complètement changé leur manière de voter, mais parce qu'une partie des minorités qui n'avaient pas voté en 2016, parce qu'on ne voyait pas Trump accéder au pouvoir, peut-être parce que Hillary Clinton n'avait pas un agenda assez progressiste et orienté sur la justice sociale pour elle et pour eux, se sont décidés à aller voter. Et là, il y a deux choses. Il y a la réalisation que Trump, ce que représente Trump, est une force politique avec laquelle il faut compter, qui peut remporter des victoires aux États-Unis. Et aussi, ça s'explique par la présence de candidats bien plus à gauche de l'échiquier politique qu'Hillary Clinton dans ses élections pour le Congrès et pour le Sénat américain et également dans des élections locales.
Marion Douzou est docteur en civilisation américaine et athère à l'université Paris 1. Bonjour Marion.
Bonjour.
Le mouvement MeToo a beaucoup fait parler de lui ces deux dernières années. Quel impact a-t-il eu sur la mobilisation des électrices ?
Le mouvement MeToo a eu un impact très fort sur la campagne. Donc, d'abord parce que suite à des accusations de harcèlement sexuel, plusieurs hommes politiques, à la fois démocrates et républicains, se sont vus contraints de démissionner. Ce qui a, je pense, montré à ce mouvement et aux femmes qui participaient que leur voix était entendue. Ça se voit aussi dans une organisation comme Emily's List, qui est une organisation qui aide les femmes démocrates à se présenter et qui d'habitude reçoit environ 900 appels par élection pour se présenter, et cette année elles en ont reçu 42 000. Donc il y a une forte mobilisation des femmes, il y a une forte mobilisation des candidates aux élections. Et ça se voit également dans les spots de campagne des candidates, puisque beaucoup racontent leur expérience de harcèlement. Je pense que ça a eu aussi un autre impact dans la manière dont les femmes candidates se sont présentées, puisqu'elles se sont présentées avant tout comme femmes et comme mères, donc en mettant leurs enfants au centre de leurs vidéos. Auparavant, les vidéos de campagne des femmes étaient vraiment centrés sur leur carrière et leurs enfants étaient présentés en toile de fond. Cette manière pour les candidates de se présenter a beaucoup mobilisé les électrices de la base.
On a entendu parler pendant 6 ans du Tea Party. Qu'est-il devenu aujourd'hui ?
Le mouvement a commencé en 2009 par des grandes manifestations nationales. Il était très visible. Puis petit à petit, il s'est recentré sur l'échelle fédérée et l'échelle locale. Et suite à l'élection de Donald Trump, beaucoup des militants ont eu l'impression qu'ils avaient gagné et donc ont cessé leur militantisme au sein de ces groupes. Aussi parce que je pense qu'il y avait un sentiment de fatigue aussi très fort puisqu'ils se sont battus pendant 6 ans et il n'y a pas eu de renouvellement militant, c'est un mouvement assez vieux. Cela étant dit, ils arrêtent de se mobiliser collectivement au sein du mouvement, mais ils continuent à se mobiliser individuellement dans des campagnes de candidats.
Comment la campagne a-t-elle été représentée par les médias conservateurs ?
Il y a toute une galaxie d'organisations, donc c'est un petit peu difficile de donner une réponse. Cela dit, on peut dire que les thèmes qui ont été énormément abordés ont été ceux de l'immigration, avec la caravane de migrants dont Trump se sert comme épouvantail. Ça a été beaucoup, beaucoup repris dans les médias. Et d'autre part, une volonté de mobiliser les électeurs très forte en montrant que si jamais les républicains venaient à perdre la Chambre ou le Sénat, le président Trump se trouverait dans de très grandes difficultés et ne pourrait pas mettre en place son programme.
Quels sont selon vous les événements à surveiller pour les prochaines semaines ou les prochains mois ?
Je pense que le remplacement de Jeff Sessions est à surveiller de près. Il a déjà mené à des mobilisations importantes hier aux États-Unis pour protéger Mueller. C'était le hashtag qui était utilisé pour rassembler les militants. Voilà, et puis j'espère plus anecdotique, Ruth Bader Ginsburg qui vient d'être hospitalisée. Et si elle venait à mourir ou à devoir se retirer, il aurait donc la possibilité de nommer une troisième juge à la Cour suprême, ce qui renforcerait le fait que la Cour suprême resterait aux mains des conservateurs pour des décennies à venir. Et comme les républicains ont gardé le contrôle du Sénat, la nomination passerait probablement sans problème.
En 2020, on arrivera dans un nouveau cycle de redécoupage de circonscriptions électorales, qui sont ce fameux processus par lequel on recrée les circonscriptions pour réajuster proportionnellement à la population de chaque État. En 2010, les Républicains étaient au contrôle d'une majorité d'États, donc c'est eux qui ont géré la majorité des redécoupages, ils ont fait des redécoupages extrêmement partisans. Aujourd'hui, les démocrates vont avoir la possibilité, s'ils continuent dans leur tendance de victoire au niveau des États en 2020, de contrôler une quantité d'États pour redessiner d'autres cartes qui soient soit moins favorables au Parti républicain, soit même plus favorables au Parti démocrate.
Les entretiens ont eu lieu les 8 et 9 novembre 2018 à Paris et à Saint-Denis. Merci à nos invités pour leurs analyses et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur lediploweb.com.